Vous écoutez
RMC.
RMC.
Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici.
Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
Décevant pour qui? Pour moi, non. C'est seulement pour toi, non. Prendre tes amis et prendre les groupes de décevants là-bas et les groupes de contents sont le vestiaire de
pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Il est 22h et l'after continue jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, évidemment, avec Jonathan Macardy qui est là. Salut Jonathan.
Salut tout le monde. D'entendre l'incompétent au brushing dans le jingle, ça fait toujours un peu mal. Hein.
Carrément. Ça
rappelle des très mauvais souvenirs.
Kevin Diaz est là également. Salut Kevin.
Salut à tous. Très mauvais souvenirs, notamment une belle qualification en Ligue des Champions.
Ouais,
exactement.
Pour y faire.
Comme il dit, pour faire de la merde avec des champions, il fallait déjà être là.
Bon, après, ça décharge. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars gentils, mais on a entamé la campagne de Ligue des Champions avec un trio d'attaque NG, Germain, Mitroglou.
Ouais.
Les temps ont changé.
C'est vrai.
C'est vrai qu'il n'y avait pas des milliers de personnes pour accueillir Mitroglou à l'aéroport à l'époque.
Et Clinton NG ?
Non plus.
Et son départ, vous vous rappelez de son départ à Clinton ? Il poste une vidéo de lui dans un hôtel avant d'aller en Russie et il montre son appareil génital.
Ah non, je me souviens
pas. Par mégarde.
Non, par contre, je me souviens qu'il pensait qu'il allait dans un certain club à Moscou, c'était pas celui-là.
Exactement, il y avait ça aussi.
Où il est arrivé au Lokomotiv, c'est ça, puis il croyait qu'il était au Spartak, enfin je sais plus, il y avait une histoire comme ça.
Extraordinaire. Clinton, on te salue.
Alors, on programme jusqu'à minuit, les gars, le PSG. Kevin veut nous expliquer que la triplette Messi, Neymar, Mbappé n'est pas forcément gage de réussite. C'est dans quelques secondes, accrochez-vous. Supporters du PSG, on vous attend au 32-16. Les supporters du PSG qui, d'ailleurs, les ultras du CUP, veulent mettre fin au système de revente des billets par les abonnés. Vous savez, ce fameux système au PSG.
Magnifique.
Qui permet à certains de faire du business, en fait. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes et on débattra, est-ce qu'ils ont raison. Débat aux alentours de 22h30. Là aussi, vous êtes les bienvenus, supporters parisiens au 32-16 et puis les autres, parce que potentiellement, ça peut concerner tout le monde. Avant 23h, on fera le point sur le mercato de l'OM. Il y a eu pas mal de mouvements aujourd'hui. À 23h, Jonathan, lui, veut nous convaincre que Rennes doit viser le podium. Supporter rennais.
Allons plus loin. Si Rennes n'est pas sur le podium, ce sera un échec.
Très bien. À tout à l'heure pour quelques arguments. Et puis à 23h20, tout sur la saison de Liga. La Liga espagnole qui reprend demain. Tout comme Fred Hermel. Il n'est pas avec nous ce soir, mais on lui a trouvé un remplaçant de qualité ce soir. Demain, c'est Osasuna-Séville. Hein. On ne va pas parler que du Real et du Barça, mais aussi des autres. Les deux clubs de Séville, Valence, les promus. Voilà, il y a toujours plein de trucs intéressants dans le foot espagnol. Un peu
bêtise.
Souvent un peu, comment dirais-je, phagocyté le foot espagnol par les deux gros clubs, quoi. Mais on passe à côté de plein de trucs, en fait. Des fois les trois. Ouais. Séville, le troisième ?
Non, l'Atlético.
L'Atlético, tu dis ?
Bah, ils ont été champions, quand même.
Séville, moi, je sais pas. J'aime bien Séville, moi.
Le Séville, on en parle parce qu'ils sont fréquemment couronnés en Europa League. Mais par exemple, le Betis Séville, il y a des choses intéressantes. Il y a
bien sûr.
Ils sont très très intéressants.
L'histoire de Cadix, c'est extraordinaire.
On a découvert l'année dernière Villarreal, on s'est régalé de leur parcours. Hein.
Oui. Non, mais Villarreal, c'est.
Moi, le foot espagnol, j'adore. Bah, je vous le dis.
Villarreal,
le foot anglais. Hein.
Non. Ah non, j'ai plus de plaisir à regarder. Bah, chacun son truc. Ouais.
Villarreal, le club qui a un jour accueilli le plus grand numéro 10.
C'est que c'est un truc marrant quand même, parce que bon. Le foot anglais, c'est, moi j'aime mieux ça regarder le foot allemand. Enfin, en fait, j'aime tout, un peu tout regarder.
On a tous une préférence.
À choisir entre tu vois, demain ou Osasuna Séville, ça me donne envie de regarder, tu vois.
Bah, on a
Wolverhampton Everton, ça me donne pas envie de le regarder.
T'as le prisme, le tropisme PL parce que tu commandes, mais je pense que si t'aimes bien. Moi, par exemple, si j'ai le choix, je regarde un match de Serie A, Gilbert Lali. On a tous une petite préférence, je pense. Ouais.
Mais tout de même, la première ligue est en avance en France. Merci Canal. Parce que c'est quand même Canal. À l'époque sur super fort marketing, Canal qui nous a fait qui a mis dans le crâne de tout le monde que le championnat anglais c'était le mieux, c'était le top, c'était
Il y avait, rappelle-toi, dans les années 90,
comme aujourd'hui, ils te font croire que la moto c'est, moi j'aime bien, en plus je regarde, mais tu as l'impression que tu vois, c'est le truc
Gilbert, dans les années 80,
peut-être que dans 10 ans ça le tira
fin des années 90, c'était la Serie A pour Canal.
Parce que c'était leur droit, en fait.
Ouais.
Mais ils étaient très forts, en fait. Moi, j'en dis chapeau. Chapeau l'artiste. À te mettre dans le crâne que finalement, regardez, le truc qu'on vous diffuse, c'est le truc le mieux.
Moi, tu sais comment j'ai découvert vraiment la première ligue de façon assidue. En fait, c'est grâce à la BBC. Parce que quand je jouais à l'étranger, j'avais la BBC. Et la BBC fait Match of the Day, présenté par Gary Lineker. Et franchement, c'était exceptionnel. Exceptionnel.
C'est quoi, c'est
la BBC? Non, c'est un espèce de joueur de foot, quoi.
C'est un dôle.
Mais le truc, déjà bien présenté, bien animé. Et en fait, il y avait les commentateurs live. le commentateur live. Et donc, tu vois, c'était genre Ronnie in the post.
Mais alors, attends, ils ont les images ou c'est juste un
multiplex? Oui, ils ont les images. Non, c'est, okay. C'est vraiment le magazine qui relate la journée de PL. Là,
il faut reconnaître qu'il y a des langues.
Ah, franchement, les anglaises. Cristiano Ronaldo!
Il y a des langues pour le commentaire de foot qui sont mieux que d'autres. L'espagnol, l'anglais, l'italien.
Ouais, c'est dingue.
C'est au-dessus. Malheureusement, le français et l'allemand, non. Ouais, faut le reconnaître.
Jeannore Seguier n'aime pas ton avis.
Non, mais. Ouais, enfin, c'est plus télé en l'occurrence, là, mais.
Le portugais, c'est pas mal avec l'anglais.
Ah, le portugais, magnifique.
Gilbert, allez, portugais. Moi, c'est pas pour faire la flagornerie, mais quand tu commentais, j'étais content d'écouter. Hein.
C'était moi.
Il y avait le match du titre de Marseille,
c'est pas pour
là.
Faire de la
flagornerie. Non, mais attends, le match du titre de l'OM, là, où c'est Flo Germain et lui qui commence, je l'ai gardé en sonnerie de téléphone pendant très longtemps.
Ouais, c'est vrai.
Sur le troisième but de Lucho. Ouais, Marseille-Rennes. Tu compares Gabi Enze à Luis Fernandez. J'avais vraiment ce truc-là en sonnerie de téléphone, quoi.
Oh, c'était la belle époque. Bref, bon allez, le PSG, jingle Kevin Diaz, s'il vous plaît.
Est-ce que Messi reste? Est-ce que enfin bref, c'est un chambarnum qui est énorme.
Un chambarnum.
Ouais,
c'est toujours intéressant. Bon. Alors, on t'écoute. Tu veux nous expliquer que pour toi, la triplette, la fameuse M&M, c'est pas forcément un gage de réussite.
Bon, alors que. Déjà...
On pourrait considérer que c'est la meilleure triplette du monde.
Non, mais pour en parler quand même souvent avec des amis qui sont supporters du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils sont assez lucides. Le truc, c'est qu'on parle souvent sans ballon. Sans ballon, voilà, on l'a déjà dit et répété. On sait que si les trois font pas plus d'efforts que notamment l'an dernier, ça va pas le faire au plus haut niveau. Ça passera pour la Ligue 1, mais pour le plus haut niveau, ce sera rédhibitoire. Par contre, avec le ballon, plus je vois des matchs où il manque un des trois, alors, je veux pas cibler là Kylian Mbappé qui est absent parce que il a aussi été très bon avec Neymar, il a été très bon avec Messi. Mais j'ai l'impression que lorsqu'ils sont tous les trois ensemble, tu sais, une attaque, c'est pas que les qualités individuelles. Ces trois joueurs individuellement, ils sont exceptionnels. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est sur la complémentarité des trois joueurs. Déjà, on a Neymar et Mbappé qui ont un poste de prédilection qui est en haut à gauche, comme dirait Daniel. C'est-à-dire, voilà, attaque en gauche. Même si ils peuvent évoluer ailleurs, je trouve que c'est là où ils sont les meilleurs. Et après, t'as un Messi qui se cherche un peu. Et quand je vois Messi avec Neymar sur les deux derniers matchs, sans calculer vraiment qui était le troisième homme, même si certes ce n'était pas Kylian Mbappé, puisque c'était Sarabia et en fin de match ça a été Ekitike. Mais honnêtement, ça aurait été un plot à la place du troisième homme de l'attaque parisienne sur les deux derniers matchs, le trophée des champions et à Clermont. C'est-à-dire que Messi ne voyait que Neymar et quasiment inversement. Donc c'est vrai qu'ils ont cette relation à deux. Neymar l'a eu aussi avec Mbappé.
C'est vrai qu'à un moment, on a eu Sarabia. C'était à Clermont, là.
Oui, Sarabia, il était. Non, c'était l'appui, tu sais, l'appui. Oui. Il n'a pas le droit de toucher le ballon. Et Ekitike, quand il est rentré, d'ailleurs, le jeune Ekitike, qui a beaucoup de caractère, il était aussi un peu agacé. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas sûr que. Là, on va aller voir pour la première fois ce week-end à 3. Je ne te parle pas sans ballon, encore une fois, mais même avec le ballon, je ne suis pas sûr que ces trois joueurs-là soient vraiment complémentaires, même si on va les mettre dans ce 3-5-2 ou allez avec trois joueurs offensifs,
3-4-3,
voilà, où ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent. Moi, je trouve que c'est pas anodin que Campos et le Paris Saint-Germain cherchent un autre attaquant. Et on parle pas de second couteau. Quand j'entends parler de Marcus Rashford, certes, il a une période compliquée ces dernières.
Ça fait longtemps qu'il a pas été très bon, hein, Kevin.
Non, en fait, c'est depuis l'Euro parce qu'à l'Euro il a joué blessé, puis ensuite il a eu du mal à s'en. Ça fait un an.
Il y a un truc quand même sur Rashford qui quand même, c'est en fait le PSG. Quand tu brilles contre le PSG. Tu finis au PSG.
Ouais, c'est
de Sergueï Semak à Marcus Rashford en passant par Neymar et compagnie. Ça, c'est quand même incroyable.
Ah, bref, faut dire que ça se passe souvent comme ça. Tu sais, quand t'arrives la fin d'année, tu sais que tu peux dire à ton agent, tiens, tel ou tel club, ça m'intéresse d'aller, j'ai été bon contre eux.
Ouais, le mec, PSG, ça passe la même chose. Hein.
mais bon, voilà, je pense vraiment que ça va être vraiment très curieux de voir comment ces trois-là vont animer cette attaque, sachant que derrière, t'as quand même Vitinha et Verratti, deux autres joueurs de ballon, tout le monde va vouloir un peu croquer. On va voir. Mais je pense que vraiment, Ekitike a son rôle à jouer et l'attaquant qui viendra au Paris Saint-Germain l'aura également.
Si on dit qu'il faut doubler les postes, c'est en général ce qu'on fait dans un club pro, ça veut dire qu'il te faut 6 attaquants.
Bah là, tu les as quasiment.
Bah non.
T'as Sarabia, t'as Ekitike, t'as les 3.
Ouais, je prends l'effectif officiel du club dans les attaquants. Mbappé, bon, Icardi compte plus.
Oui.
Neymar, Kalimundo parti. Il est encore là sur le site du club. Messi, Ekitike. Donc, ça veut dire qu'en fait,
Sarabia, il est où?
Sarabia, il le compte dans les milieux.
Mais Sarabia, il joue devant. Il a, l'année dernière au Portugal, au Sporting, il fait une grosse saison en jouant devant. Et je pense qu'il va rentrer dans le rotation. Voilà,
on va dire, on peut le compter, allez, on va dire entre, à cheval, entre les deux.
Si Rashford arrive, il y en aura 6. 6 pour 3 postes.
Voilà. Ça va.
Alors, ce qui est. Sarabia, t'es pas sûr qu'il reste.
Par contre, ce qui est étrange.
Je pense que si.
Moi, j'aime beaucoup Rashford pour moi, vraiment, même si encore une fois, oui, il a été un peu moins bon sur les derniers mois, mais c'est un des joueurs de moins de 25 ans qui a vraiment énormément de talent. Je le mets dans la classe des Mbappé, Haaland. Pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Mais par contre, son poste de prédilection, c'est aussi avant-centre, mais qui aime être sur le côté gauche et rentrer sur son pied droit. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment le profil vraiment qui convienne au Paris Saint-Germain au vu que du fait que Kylian Mbappé soit resté. S'il était parti, ça aurait été très bien.
Deux choses. La première, je pense qu'on va être d'accord, Kevin, et on redira ça toute l'année, c'est que tu ne peux pas ambitionner d'aller loin en Ligue des Champions si tu défends à 8. Donc je sais pas ce qui va se passer avec Christophe Galtier. On a vu la première réaction d'Antoine Comboré en disant Neymar, mais tu défends toi maintenant. On verra si ça se poursuit toute l'année. Mais en tout cas, si Paris veut aller loin en jouant avec les trois, il faudra absolument que Galtier fasse des tours de magie et que les trois, je te dis pas que les trois doivent se sacrifier et être des chiens de la casse type Brandao, mais qu'au moins sur la première relance adverse, il y en a un qui se sacrifie pour aller au pressing. Et ça, on l'a rarement vu l'année dernière et les années précédentes. Donc ça, c'est le premier point. Et ça reste un gros point d'interrogation. Surtout dans les matchs face à des équipes qui, elles, défendent en bloc, à 10, etc. Le deuxième point, c'est que, offensivement, moi je pense qu'il y a quand même une solution qui est assez évidente et j'attends de voir ce qui va être mis en place lorsque Mbappé va revenir. Mais c'est que Neymar, oui, certes, il joue attaquant de couloir, côté gauche, mais je pense qu'il a envie et il a en lui, d'ailleurs on l'a vu avec la sélection, de jouer numéro 10. Numéro 10, il est très bon, ça lui laisse libre cours à sa créativité, il a une très bonne vision du jeu, qui est sous-estimée, je trouve. On parle souvent de ses dribbles, etc. Moi, ce que je retiens surtout chez Neymar, c'est sa vision du jeu, et je trouve qu'il a un jeu long qui est pas dégueulasse. Ça permettrait à Lionel Messi de jouer dans une attaque à deux, là où il est très bon, là où il est, à mon sens, toujours un, si ce n'est le meilleur joueur au monde, c'est quand il joue dans une attaque à deux, on l'a vu avec l'Argentine, où il va chercher la Copa América en jouant dans une attaque à deux avec Lautaro Martinez. Et puis, je pense que Mbappé, lui,
là, il a dit qu'il voulait jouer derrière les deux. Hein.
Oui, mais je pense qu'il y aura un débat. Mais je pense aussi
que qu'ils sont pas très.
Je pense aussi que Messi, et même s'il dit qu'il veut jouer derrière les deux en sélection, il joue attaquant. Il joue dans une attaque à deux avec Lautaro Martinez, et je pense que il est très bon. Et que même s'il a dit ça à Galtier, moi je pense qu'il faut qu'il voit son intérêt, ses automatismes par rapport à la Coupe du Monde, et que jouer 9,5, ça peut être très bien pour lui. Et enfin, Kylian Mbappé, moi je suis pas encore persuadé qu'il fasse sa carrière, une grande carrière en tant que pur numéro 9. Mais dans une attaque à deux, jouer dans l'axe, pourquoi pas? Donc il y a un système qui est évident, c'est de jouer avec Neymar en 10 et Mbappé et Messi qui se tournent autour l'un de l'autre dans une attaque à deux. Après, est-ce que Galtier va mettre ça en place? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, une chose est sûre, et même si c'était pas ton point principal dans ton avis, Kevin, pour moi, il faudra impérativement voir le comportement défensif des trois sur la durée. Parce que c'est ça la clé.
Sachant
c'est ça la
clé derrière. Parce que si tu veux jouer avec Verratti, Vitinha,
j'allais venir là-dessus.
Comme ça semble être le cas, ça peut être un peu léger.
Parce que
quand
si tu joues avec ces trois-là, mais que je n'ai pas derrière trois milieux de terrain, comme c'était souvent le cas sous Mauricio Pochettino. Trois milieux de terrain qui limitaient un petit peu la casse. Il y en avait toujours un qui coulissait sur les phases de transition, qui allait justement essayer de rattraper le fait qu'il n'y ait pas de harcèlement sur la première relance adverse. Là, c'est Vitinha, Verratti. C'est deux joueurs qui puent le football, qui ont beaucoup de ballons, qui sont capables de faire des différences individuellement, qui ont une très belle vision du jeu, mais c'est pas l'assurance touriste défensivement et en termes de volume de jeu. Donc il va falloir que Galtier trouve l'équilibre. Pour l'instant, t'as l'impression qu'il est bien maître à bord, qu'il sait où il veut aller, et c'est pour ça que moi personnellement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Mbappé.
Mais l'équilibre, il existe aussi avec le ballon, vraiment, parce que quand je regarde la BBC, donc Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, il y en a un qui s'est sacrifié pour les autres, et on le voit depuis que Ronaldo est parti. C'est Benzema qui s'est sacrifié avec le ballon, c'est-à-dire que voilà, il s'est mué en passeur, il s'est mué en soldat pour Cristiano Ronaldo.
Messi peut le faire, ça.
Et il était beaucoup moins buteur, beaucoup moins tueur.
Mais Kev, si Messi est dans les mêmes dispositions psychologiques et mentales, ce dont je doute, que ce qu'il est avec la sélection argentine, il est capable de le faire.
Non, mais après, il va falloir qu'il y en ait un qui
le fera à Paris. Ça
oui, mais attention, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. La relation technique entre Messi et Neymar, elle est réelle. Elle est réelle, elle est historique. Ça se voit, c'est deux mecs qui s'entendent sur et en dehors du terrain. Mais ce qui s'est passé à Clermont avec Sarabia et Kitike, ça peut pas se passer avec Mbappé. Ça va se passer une fois.
Mais
derrière, il va y avoir un problème.
Attends, je te pose une question pour aller plus loin. Est-ce que intrinsèquement,
En fait, tu vois plus des problèmes d'ego que des problèmes de ballon.
Mais même les deux, parce que en termes de possession, intrinsèquement, est-ce que Kylian Mbappé, c'est pas un joueur qui a l'opposé de ce que sont Messi et Neymar, qui sont des joueurs qui sont des joueurs de possession, qui sont des joueurs qui sont capables de conserver la balle et qui sont pas des joueurs de rupture et de profondeur comme Mbappé peut l'être.
Ça pourrait être en effet un complément positif, mais le souci c'est que on a l'impression quand même que Mbappé, il aime aussi avoir le ballon dans les pieds, il aime aussi tricoter, c'est alors que là où il est le meilleur, hein, c'est sur les 10 premiers mètres et là où il a cette première, c'est un joueur de deuxième rupture, voire troisième accélération comme dit coach Courbis. Donc on va voir, ça va être très sympa à suivre tactiquement l'animation offensive du Paris Saint-Germain.
Dans un instant, on aura Mickaël avec nous, il veut donner son point de vue. 22h15, on revient tout de suite pour continuer le débat sur l'attaque du PSG. Ensuite, on parlera de leur vente des places au Parc des Princes et du mercato de l'OM avant 23h. Bougez pas, l'after revient tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan Macardy, 22h17, le PSG au programme pour l'instant, l'OM ensuite avec son mercato, après 23h on parlera de Rennes et tout espagnol. On a Mickaël au 32-16 qui est là. Mickaël, bonsoir.
Salut l'équipe.
Salut Mickaël,
ça va et vous?
Ça va. Bon, t'as entendu l'avis de Kevin, là, t'es d'accord ou pas d'accord?
Après, le PSG, ça a toujours été compliqué avec le secteur offensif, mais ça peut fonctionner. Et oui, mais
enfin, moi, excuse-moi, je me suis pas trop exprimé, mais enfin, quand tu me dis sur le papier Messi, Neymar, Mbappé, qu'on me dit problème, j'ai du mal à suivre quand même.
Ben, comment tu veux les associer, les trois? Les trois, c'est des génies, mais ils ont Messi et Neymar, ils jouent similaire. Une touche de balle, un petit kitaka, mais ça va. Mbappé, c'est de l'accélération. Donc après, maintenant, il veut jouer un peu de dribble. Il y a des moments où ça passe, et des moments où ça passe pas. Mais sur le papier, c'est un peu compliqué de les faire jouer ensemble, mine de rien. À part en 3-4-3, et tu laisses les trois totalement libres, parce que c'est compliqué de dire à un joueur, vas-y, toi, tu restes côté
droit. C'est plus Messi libre et les deux autres devant. Neymar, Mbappé devant et Messi libre derrière eux.
Tu sais, avec l'Argentine, quand ils gagnent la Copa América, sur les phases de jeu offensives, c'est souvent Di Maria qui jouait quasiment numéro 10 derrière Messi et Lautaro. Et Messi qui restait vraiment devant.
Bah après, il courait pas beaucoup non plus à ce moment-là, Messi, pendant avec l'Argentine.
Alors là, je t'invite à revoir les matchs, mon coco. Tu verras. T'avais l'impression que c'était un autre homme.
Alors je me suis trompé là-dessus, mais pour moi, les trois, c'est des génies. Il faut les laisser libres. Maintenant, dire à Messi, tu restes côté droit, Mbappé, tu restes côté gauche, Neymar, tu restes devant, ou peu importe comment vous voulez fonctionner. Les restreindre.
Alors attends, est-ce qu'on peut quand même se rappeler, et ça on l'a pas fait, c'est bête de notre part, de la manière dont Messi et Neymar ont fonctionné. Ils ont fonctionné avec un numéro 9 de référence qui était Luis Suarez. Quel est le profil de Luis Suarez?
C'est l'opposé de Kylian Mbappé.
On est d'accord. Mais c'est un mec qui est capable de se sacrifier aussi.
Mais même le sens du sacrifice. Même Lautaro Martinez, c'est un peu l'opposé de Kylian Mbappé.
Oui, mais après, bon, si on restons sur un joueur avec qui Messi et Neymar ont joué. Luis Suarez, t'as raison, c'est l'opposé de Mbappé, mais pour quelle raison? Pour le sens du sacrifice. Il est capable, lui, d'aller harceler la première relance adverse. C'est un plaisir pour lui. Mais surtout, dans le profil, c'est un joueur qui est moins un joueur de profondeur, même s'il est capable, tu vois, mais qui pèse plus sur la défense adverse.
Il est capable de
libérer plus d'espace.
Il peut faire la planche.
Exactement, c'est ce que je t'ai dit, il est capable de libérer des espaces
Messi,
pour les deux autres.
Combien de fois on l'a vu faire appui, remise, rentrer dans la surface du Camp Nou et envoyer un petit filet opposé? C'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin d'un appui remise, alors que Mbappé, c'est un joueur de rupture, c'est un joueur qui prend la profondeur même sur les 20 derniers mètres, il est capable par sa vitesse de faire une différence exceptionnelle. Mais c'est pour ça que je dis que, bien sûr, c'est trois joueurs exceptionnels qui pourraient jouer ensemble sur le papier, mais on l'a vu quand même sur la saison dernière. C'est pas aussi évident que ça dans les enchaînements, dans la complémentarité entre ces trois joueurs.
Après, allons plus loin. Si Galtier montre qu'il a vraiment des joues, il y en a un à sortir. Il en sort un.
C'est pas un neuf.
Il en sort un et fait jouer Messi et Mbappé dans un 4-4-2.
Mbappé, c'est
dans la
pas
saison, on peut pas envisager ça, les gars.
Attention, parce que Neymar, il est excellent en ce moment aussi. Donc,
tu dis Mbappé, c'est pas un neuf. Enfin, bon, on l'a vu plusieurs fois jouer là. Puis
il veut jouer neuf.
Mais c'est pas un neuf à proprement parler. Les vrais neufs, c'est Lewandowski, Benzema, Higuain, des joueurs comme
oui,
ça.
Oui, je vois ce que tu dis. Il n'a pas le profil type.
Et puis, faut voir dans l'histoire récente des trios offensifs. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Benzema et la BBC. Il y en a toujours un qui est obligé de se sacrifier
Salah,
pour les autres.
Firmino.
Mais oui, Firmino qui se sacrifie pour les deux autres, qui
Messi
fait jouer
Messi, Neymar, Suarez.
Voilà. Donc, il y a un moment, c'est comme ça. C'est trop difficile d'animer une attaque.
Mitroglou, Germain Andy.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Vraiment, sérieusement, je pense que c'est pas si facile qu'on croit. Il y a eu de grandes duo dans l'histoire. Il y a eu aussi des trios, mais lorsqu'il y a un trio, bah forcément il y en a un qui doit jouer pour les deux autres. C'est comme ça.
Mais si Suarez et Neymar sont pas vraiment sacrifiés, les trois étaient vraiment
Suarez faisait quand même beaucoup d'efforts.
Ouais, mais Suarez, il faisait quand même. C'est un gars qui a ça en lui, la grinta d'aller harceler.
Non, mais même t'as raison dans sa capacité à conserver la balle de haut but, un petit peu se sacrifier à faire le ça aller au mastic entre les deux centraux, etc. C'est un vrai neuf de métier. Mbappé, pour l'instant, on n'a jamais vu.
Mais c'est pas pour rien que Luis Campos, qui connaît le football bien mieux que nous, c'est pas pour rien qu'il veut absolument un attaquant.
Mais c'est pas pour rien qu'il a pris Ekitike, hein.
Bien sûr. Après, Ekitike, c'est un joueur aussi un peu de rupture. Il est quand même assez vif.
Oui, mais de par sa taille, son jeu de tête qui peut se développer, tu vois.
C'est surtout le profil de Scamacca qui m'interpelle. Quand tu voulais un joueur comme Scamacca, c'est quand même un joueur un peu attaquant à l'ancienne, tu vois, un peu qui va garder le ballon, qui va être capable d'être bon de la tête, dans la surface.
Pour l'avoir beaucoup, pour des raisons que je connais vues l'année dernière, il ne faut pas se laisser berner par sa taille. Et c'est tout sauf un plot, Scamacca.
Non, j'ai pas dit qu'il
est impressionnant. C'est un joueur justement qui prend la profondeur. C'est un joueur qui est très fort balle au pied. Et en fait, tout ce qu'on pourrait croire quand on le voit, c'est tout le contraire sur le terrain. C'est pas du tout un pivot, Scamacca.
Non, pas un
et
pivot.
Je te dirais même que par rapport à sa taille, il est pas bon de la tête.
Ah ouais.
Il est pas bon en remise, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Mais si vous prenez un attaquant supplémentaire, vous sortez qui dans les trois?
Alors là honnêtement, vu la forme des deux, je te dirais pas que sortirais Neymar et Messi. Forcément, tu ne peux pas sortir Kylian Mbappé. Donc c'est ce que je te dis. Si je vais être curieux de voir, parce que c'est quasiment impossible aujourd'hui d'en enlever un. Non,
mais il va jouer avec les trois après, tu vois. Moi, je te dis, en cours de saison, en fonction des blessures, en fonction de la Coupe du Monde, tu peux voir. Comment ?
Galtier a dit que tout le monde allait tourner, que tout le monde n'avait pas démarré.
Oui, bien sûr, Mbappé va tourner. On y croit tous.
Dans la saison, mais après, dans les titulaires, c'est Messi, Neymar, Mbappé, normalement.
Eh bien sûr.
Bah non, mais évidemment.
Là-dessus, il n'y a pas de doute.
Après, les phases de jeu commencent.
En fait, le point central, ce sera plus les deux qui sont derrière eux. C'est ce que lui disait un peu Kevin tout à l'heure.
Bah, ça semble parti pour être les deux V.
Vitinha, Verratti, c'est malin, y a pas mieux que maintenant.
Bah, si tu joues pas avec Paredes en Ligue des Champions, c'est criminel. Mais...
Après, attention, parce que Vitinha, Verratti, mais là, c'est un autre débat. Vitinha, Verratti, en termes de complémentarité dans les gros matchs, je ne parle pas de la Ligue 1, je parle des très gros matchs de très haut niveau. Je demande à voir quand même.
C'est pour ça, je t'ai dit, en Ligue des Champions, je joue pas avec Paredes, c'est criminel.
Merci, Mickaël.
Il est pas sur la Ligue des Ventes.
On verra.
Il est pas dans le loft. Il est pas dans le loft.
Il est pas dans le loft.
Le PSG veut le vendre. Salut, Mickaël.
Salut Mickaël.
Salut Mickaël, merci.
Bonne soirée, les gars.
Bonne soirée. On va conclure avec Thibaut qui est là. Salut Thibaut.
Oui, bonsoir monsieur.
Salut Thibaut.
Thibaut, tu entends le débat là ? Tu te positionnes comment toi sur les trois de devant là ?
Sur les trois de devant ? Alors, un instant monsieur.
Thibaut.
Bon. Il a cru qu'il était avec son opérateur.
Thibaut. Bon, c'est pas grave. On le retrouvera peut-être un peu plus tard, Thibaut. Ça a coupé. Donc, voilà. Apparemment, un instant. On va lui laisser un instant, un peu plus long que prévu. Dans un instant, justement, le Parc des Princes et la revente des billets. Parce que cette histoire, faut qu'on vous la raconte. Vous savez que c'est devenu un business au parc de revendre les billets pour certains abonnés qui ne vont quasiment jamais au stade, en fait, hein, quand ils se rendent compte qu'ils arrivent à rentabiliser leur abonnement en trois matchs. On en parle dans quelques instants parce que le CUP, le CUP, c'est le groupe d'ultra parisiens, veut interdire la revente de billets pour ses membres. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une mauvaise idée ? On fait le point dans quelques instants. À tout de suite.